Alors, je voudrais donner quelques exemples rapidement, puisque ça fait déjà, je parle trop, peut-être qu'après je m'arrêterai. À l'époque de la réunification allemande, Günter Grass s'était opposé à la réunification. Le prix Nobel de littérature, un grand écrivain allemand, il s'oppose à la réunification au nom d'Auschwitz et de la mémoire d'Auschwitz. Parce qu'il dit, c'est l'Allemagne unifiée qui a permis le nazisme, c'est l'Allemagne unifiée qui a permis Auschwitz, et jusqu'à ce que l'Allemagne restera divisée, eh bien, ce sera un rappel permanent au passé, à l'histoire, et ce sera une manière de garder ouverte la plaie du nazisme, sa mémoire. On ne pourra pas oublier les crimes du nazisme. En revanche, la réunification sera vécue comme une façon de tourner la page, l'Allemagne qui peut se libérer des spectres et peut rétablir son orgueil de nation et peut. L'histoire reprend son chemin sur ses rails naturels après cette parenthèse qui est fermée. Hein. Et je pense qu'à l'époque, cette crainte de Günter Grass était loin d'être une crainte abstraite, une crainte absurde. Hein. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on peut dire les choses ne se sont pas passées comme cela. L'Allemagne s'est réunifiée, mais l'Allemagne n'a pas oublié. Je dirais que c'est même le pays en Europe qui a le moins oublié. Il n'y a pas, que je sache, dans un autre pays européen, un mémorial qui fait 20 000 mètres carrés au centre, dans la capitale, à côté de l'Assemblée nationale, qui rappelle les crimes perpétrés par ce pays. Hein? Bon, il n'y a pas, que je sache, en France, rien de comparable pour rappeler les crimes du colonialisme français, en Italie, pour rappeler les crimes du fascisme italien, les crimes du franquisme en Espagne, etc. Mais à l'époque, je pense que cette crainte était largement partagée par les démocrates en Allemagne et par beaucoup de. Un autre exemple qui est très actuel sur l'usage politique de la mémoire. Alors, vous vous souvenez peut-être. Il y a un an, un peu plus d'un an, 60e anniversaire de la libération des camps nazis, de la libération d'Auschwitz, Auschwitz s'est déroulée une grande commémoration très médiatisée, hyper médiatisée. Les télévisions du monde entier ont retransmis cette commémoration avec Dick Cheney, représentant des États-Unis, vice-président des États-Unis, avec Jack Straw, ministre des Affaires étrangères britannique, avec Silvio Berlusconi, président du gouvernement en Italie, Jacques Chirac évidemment et d'autres. Il s'agit de figures publiques qui sont identifiées hein, à toute une série d'événements de l'histoire récente. Dick Cheney est un des responsables un des architectes, je dirais, de la guerre en Irak, et un des principaux responsables de Abu Ghraib et de Guantanamo. Jack Straw est un des responsables d'un gouvernement qui a mené, et Berlusconi aussi, sont les responsables de gouvernements qui ont mené cette guerre et qui sont perçus aux yeux d'une large partie de l'opinion publique internationale, comme les responsables d'une guerre qui est perçue comme une guerre d'oppression, comme une guerre néocoloniale, comme une guerre impériale, etc. Eh bien, quel message nous délivrait-il à Auschwitz? Le message était simple. Il y a eu Auschwitz et cela prouve que nous sommes là pour commémorer. Les victimes d'Auschwitz. Donc, cela montre que nous sommes sur la bonne voie, que nous incarnons le bien, et c'est pour cela que nous rappelons le mal. du siècle. Et c'est une vision de l'histoire qui est véhiculée. Il y a eu un siècle de totalitarisme. Eh bien, ce siècle de totalitarisme, à quoi sert la mémoire d'Auschwitz? Elle sert à légitimer l'ordre dominant aujourd'hui dans le monde, l'ordre occidental. Et je me demande quel peut être l'impact de ces images-là aux yeux d'une bonne partie de la population de la planète, et même ici chez nous. Hein, un mois après ces commémorations, eh bien, l'Assemblée nationale en France approuve, vote une loi qui reconnaît le rôle positif du colonialisme français. Alors, quel message est-ce qu'on délivre à une partie de la population française, les jeunes qui ont brûlé des voitures dans les grandes villes, dans les banlieues des grandes villes françaises, quand ils ont vu ces images, ils ont dit, ben, la mémoire d'Auschwitz n'est pas la mienne. Hein? Je n'ai rien à voir avec cela. Alors, la concurrence, ce qu'on appelle la concurrence des mémoires, surgit aussi d'un usage politique que l'on fait de la mémoire et de l'usage public que l'on fait du passé. La mémoire n'est pas toujours vertueuse. Hein. La mémoire peut aussi être objet d'abus, hein, comme elle fait l'objet d'un usage public, elle peut aussi faire l'objet d'abus. Et ce phénomène a aussi été mis en lumière par exemple, Peter Novick, que je citais, une grande essayiste américaine très connue en France, qui s'appelle Susan Sontag, qui est décédée il y a un an. Bah, les deux ont écrit des livres où ils soulèvent une interrogation. Alors, comment se fait-il que aux États-Unis, on a créé un musée fédéral de l'Holocauste, qui, entre parenthèses, est un très bon musée. Hein. C'est un musée excellent pour sa conception, son organisation. Mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, il y a ce musée fédéral qui rappelle l'Holocauste, un événement qui a eu lieu en Europe, pas aux États-Unis. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas un musée fédéral qui rappelle le génocide des Indiens, événement fondateur de l'histoire américaine, ou l'esclavage, qui est une expérience fondatrice de l'histoire américaine. Et donc, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que, ou comment se fait-il que ce musée a été inauguré il y a 10 ans, hein, 1995, exactement au même moment, aux États-Unis, on avait décidé d'imprimer des timbres-poste qui rappelaient la bombe atomique comme l'heureux événement qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et qui avait épargné. Bref, on ne peut que s'interroger sur les conséquences politiques d'un tel usage public du passé. Et la conclusion que tirent Peter Novick et Susan Sontag, qui entre autres sont des intellectuels juifs, eh bien, c'est que cette mémoire est devenue aux États-Unis une mémoire apolitique, une mémoire, ou alors qui répond à un certain dessein politique, une mémoire qui est dissociée des contradictions de la société, une mémoire qui n'est pas une bonne mémoire, finalement. Hein? À une époque pendant laquelle il n'y avait pas de musée de l'Holocauste, et une époque pendant laquelle à Hollywood on ne produisait pas des films comme La Liste de Schindler de Steven Spielberg, eh bien, la mémoire de l'Holocauste avait été un élément. Il y a un très beau livre, un très beau roman en France qui en parle, d'une certaine façon, W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. Comment cette mémoire de l'Holocauste avait été un aiguillon, on dit en français, comment dire, avec quelque chose qui stimulait pendant les années 50, par exemple, beaucoup de Français à se battre contre la guerre d'Algérie et contre le colonialisme français en Algérie. Donc, puisqu'il y a eu le nazisme, l'occupation et la torture en France, on ne peut pas accepter que des Français torturent en Algérie. Ben, je pense que c'était un autre usage de la mémoire, bien plus fructueux et fécond de l'usage qui est souvent fait aujourd'hui, mémoire con. Alors, une... mais là, je termine vraiment parce que... une tendance assez répandue aujourd'hui est celle à neutraliser le passé par l'adoption de mémoires symétriques et consensuelles, je les appelle comme ça. Et c'est une tendance que j'ai constatée dans plusieurs pays. Par exemple, en France, d'un côté, on promulgue une loi qui définit l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et puis, bon, une autre loi qui dit que le colonialisme a été historiquement positif. Et pourtant, il y a quand même un lien entre les deux. En Espagne, en 2004, en octobre 2004, a eu lieu un défilé, le défilé national, dans lequel un ex-républicain, un ex-exilé républicain et un ex-milicien qui était parti avec la division Azul, envoyé par Franco pour se battre sur le front oriental à côté de l'Allemagne nazie, ils défilaient ensemble pour montrer que l'Espagne était réconciliée. En Allemagne, le pays où cette tendance est la moins développée, mais quand même Helmut Kohl avait essayé en 1993, il y avait eu la Neue Wache au centre de Berlin, Unter den Linden, ce monument à toutes les victimes de la guerre. Toutes les victimes de la guerre, c'est-à-dire Allemands, Juifs, soldats de la Wehrmacht tombés, Tziganes, homosexuels, bref, tous ensemble, comme s'il ne fallait plus s'interroger sur les causes des violences qui ont produit des victimes, etc. Bon, le mot Opfer, d'ailleurs, en allemand, signifie à la fois les victimes et les martyrs. Et je pense que cette tendance est, en Italie, on a fait la même chose. On a institué une journée de la mémoire pour rappeler les victimes de l'Holocauste. Et quelques mois plus tard, le président de la République a fait l'éloge de ce qu'il a appelé « i ragazzi di Salò », les jeunes miliciens du régime de Salò. Comme si on pouvait en même temps commémorer les victimes et leurs tortionnaires, parce que c'est bien des policiers, i ragazzi di Salò, ceux qui ont raflé les juifs qui ont été déportés vers les camps d'extermination. Donc ce projet de créer des mémoires symétriques et interchangeables, des mémoires consensuelles, est un projet qui ne peut que buter sur des contradictions insolubles et qui ne peut que produire les phénomènes qu'on a définis de concurrence des victimes auxquelles on a assisté. Bon, peut-être il vaut mieux que je m'arrête là pour laisser un peu de place à la discussion, aux commentaires et aux questions.
Merci pour cette vraiment cet exposé super.